Tropic FM.
Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois au téléphone l'artiste de la semaine sur votre antenne, l'artiste bénolan Didier Laval, alias Bara. Didier, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, j'ai parlé d'artiste bénolan à ton propos. Alors, tu habites Bénaud, tu es pour autant originaire du département de l'Ain,
hein? Alors, en fait, oui, j'habite depuis très longtemps dans le département de l'Ain, mais en fait, moi, je suis né dans la région lyonnaise, quoi. Mais très vite, je suis venu dans ce très beau département que je traversais depuis très longtemps dans mon enfance. C'est un département à travers lequel je transitais souvent, parce que du côté de mon père, nous sommes du Jura. Et donc, voilà, c'est un très beau lien entre Lyon, la capitale des Gaules, et puis mes racines jurassiennes.
D'accord. Alors, d'où vient ton nom d'artiste, Bara?
Alors, Bara, en fait, c'est le nom de résistance de mon grand-père, vu que mon grand-père était chef du groupe combat à Lyon pendant la guerre. Il a travaillé avec Jean Moulin et en fait, il portait un nom qui portait vraiment à confusion, d'ailleurs, parce que, en fait, mon grand-père s'appelle René Laval, donc ce nom-là, pour beaucoup de gens, par rapport à la guerre 39-45, évoque un tout autre personnage. Mais, en fait, donc, mon grand-père était chef du groupe combat, comme je l'ai dit, et ils avaient tous des noms de code, et le sien était Bara, B-A-2-R-A-T, et ça m'a fait très plaisir d'utiliser ce nom en tant que chanteur, parce que moi j'estime qu'à travers la chanson, j'ai mon petit combat à mener, je suis en résistance contre certaines choses.
C'est un nom qui était facile à porter pour toi, Laval?
Alors, c'est clair que pendant toute mon enfance, malheureusement, dans les écoles, au collège, toujours quand on donne son nom, on a toujours ce petit côté « Ah, Laval, comme le Premier ministre !» Mais bon, moi j'en parle comme ça, en rigolant, mais je pense que quelque part, ça a dû quand même me marquer, parce que pour prendre en pseudo le pseudo de mon grand-père, je pense qu'il a dû se passer quand même quelque chose. Les enfants, entre eux, sont quand même très méchants, et je pense que ça traumatise quelque part.
Alors, sur le site internet du Théâtre des Asphodèles, on présente ton parcours en partant, je cite, des années d'usine à celles d'artistes de variété, en passant par l'itinéraire cascadant d'un des plus discrets directeurs de combat artistique du spectacle vivant. Alors, trouver ta voie, t'as pris plus de temps que tu croyais, ou comme on dit si bien, il fallait bien vivre?
Non, c'est pas qu'il fallait bien vivre, c'est que pour moi, le spectacle, le fait de monter sur scène, fait appel à plusieurs disciplines. J'ai plutôt la vision anglo-saxonne de ce métier, où un artiste doit savoir à peu près tout faire sur un plateau. Et moi, j'ai toujours été très intéressé par le côté éclectique de la vie d'artiste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille en tant que comédien, en tant que metteur en scène, en tant que auteur, compositeur, interprète, et également en tant que cascadeur professionnel en combat artistique. Et notamment, je règle souvent des combats à l'Opéra de Lyon et au TNP de Villeurbanne. Donc, comme tout récemment, un spectacle qui est toujours à l'affiche d'ailleurs jusqu'au 7 mars au Studio 24 à Villeurbanne. Donc, ce sont les farces de Molière qui ont été mis en scène par Christian Scaretti et où j'ai réglé avec joie d'ailleurs, parce que c'est vraiment très sympathique de travailler avec Christian Scaretti et toute l'équipe du TNP, tous les jeunes comédiens qui sortent de l'ENSAT. Donc j'ai réglé tous les duels à l'épée qui sont et au bâton qui sont dans ces différentes farces de Molière.
D'accord. Alors on parlait tu vas toujours baigner, toi, dans la musique, la chanson en particulier
ou... Oui. Alors moi, c'est ma première passion. Hein. Ma première passion, c'est l'écriture, et c'est l'écriture qui m'a amené à faire tout le restant. Donc j'ai commencé à écrire de la poésie, et très vite, j'ai franchi le pas pour venir à la chanson, parce que c'est vrai que la poésie, aujourd'hui, pour moi, son gros véhicule, c'est la chanson. Éditer de la poésie en recueil, je l'ai tenté, je l'ai fait, c'est très agréable aussi, mais bon, c'est vrai qu'il y a très peu de public en face, et c'est vrai que la chanson permet de rencontrer beaucoup plus de monde. J'ai été bercé par pourquoi la poésie. Alors je sais pas si je fais de la poésie, c'est plutôt les gens qui écoutent qui ont le droit de le dire. Moi, j'essaye de faire des choses du mieux que je peux, le plus sincèrement possible, parce que c'est ça qui compte pour moi en tant qu'artiste, c'est garder la sincérité. C'est le plus important, c'est ça, c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Moi, dans mon enfant, j'ai été bercé par des gens, évidemment, hein, comme Brel, Brassens, et puis Léo Ferré, que j'ai eu la chance de côtoyer de 1983 à 93, l'année où il est parti. Je pense que évidemment il y a une petite influence du fait que bon, je suis encore très ami avec sa famille, son fils Mathieu, ses filles, enfin on a encore souvent des contacts parce que j'ai eu la chance de faire des hommages à Léo, de faire des spectacles sur Léo Ferré, des tours de chant et de mettre en scène la seule pièce que Léo Ferré a écrite dans les années 50 et que personne ne connaissait, qui s'appelle Les Noces de Londres, que j'avais mis en scène lors d'un festival d'Avignon, au théâtre du Funambule, à Avignon donc. Voilà, donc c'est vrai que l'univers de Léo Ferré, je le connais assez bien, et son style d'écriture, son personnage, sa vie et son combat de tous les jours me touchent de très près, ça c'est clair.
Sur ton site MySpace, on apprend que tes premières chansons datent de 1988. Ton premier album, le 40e Rugissant, est sorti le 15 novembre 2008. tu n'as jamais rien enregistré avant? La scène suffisait ton bonheur?
Oui, en fait, si, j'avais fait un 45 tours, quand il y en avait encore.
C'est vieux.
Voilà, donc c'était en 90, je crois. En 1990, j'avais fait un 45 tours. Ça m'a... À l'époque, j'avais fait des premières parties de Francis Lalanne, C'est Jérôme, Les Forbans, Hubert Félix Thiéphaine, un immense personnage, un jurassien, un peu comme moi. Voilà. Et j'ai même fait une première partie d'Annie Cordy à Eurexpo. Et Annie Cordy, une immense dame de la chanson, ce n'est pas que la Bonne du Curie, quoique la Bonne du Curie soit un très bon succès populaire, hein, mais en tout cas, elle sait aussi à l'intérieur de ses concerts placer un titre que l'on n'attend pas, avec une immense profondeur, et elle a vraiment le métier pour faire passer ce genre de texte, quoi. C'est vraiment, j'avais rencontré une dame formidable, moi, Annie Cordy.
Donc ton premier album, le 40e Rugissant, est donc sorti, je disais, est enfin sorti le 15 novembre 2008. Le décor est planté, tu as eu 40 ans et tu n'as pas ta langue dans ta poche, c'est ça?
Oui, voilà, alors d'où le titre, le 40e Rugissant, c'était un petit clin d'œil à tout ça, quoi. La décennie, le fait aussi que j'aime beaucoup tout le monde de la mer, l'océan. Et puis il y a le visuel de l'album aussi qui fait appel à ça, vu qu'on est très axé sur le ciel, la mer, au niveau du visuel. Et puis le rugissant, oui, parce que je sais pas si nous sommes 40 à rugir, mais j'espère qu'on est plus.
Mais on parle également 40e rugissant à propos des 40 ans de mai 68, et puis il y a des événements que l'on connaît.
Voilà, hein, tout à fait.
Tu aurais aimé vivre, toi, cette période très riche d'un point de vue contestataire?
Ça, c'est clair que j'aurais bien aimé vivre cette période, ne serait-ce pour mieux la comprendre, parce que malheureusement, comme beaucoup d'événements historiques, ils sont très vite déformés. Quand on voit déjà comme les événements, comme la dernière guerre, il y a plein de choses qui sont déformées. Plus on remonte dans le temps, en fait, souvent, on a de l'histoire que l'histoire des vainqueurs. Donc c'est déjà 50% tronqué pour moi. Souvent on a ça dans les traces de l'histoire. Alors de mai 68, je pense pas qu'on ait toute la vision. On saura peut-être encore beaucoup plus tard qu'est-ce que ça a été réellement. On sait évidemment que pour la majorité des gens, ça a été une redite de 89, malheureusement. Que les mêmes personnes ont été utilisées pour un combat dont les retours ne sont pas revenus, et que ce sont, comme bien sûr, toujours les mêmes décideurs qui arrivent à s'en sortir, quoi. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, je sais pas, on comprendra mieux ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Enfin, je sais pas. Mais bon, moi, je vois ça aussi avec ma petite vision d'artiste. Et puis, malheureusement, j'ai pas, comme beaucoup de gens, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Nous n'avons pas Donc il faut essayer de se créer un point de vue. En tout cas, il faut pas perdre espoir. Il faut rester, essayer d'avoir une ligne de conduite juste et de maintenir certaines valeurs que nos parents et nos grands-parents nous ont obtenues, quoi. Et il faudrait pas qu'on laisse partir tout ça, en tout cas.
Ouais. Alors, toujours sur ton site MySpace, alors tu cites tes influences, hein, libertaire, provocatrice et anticonformiste. Alors tout l'inverse d'un artiste de variété, comme on l'entend. T'as toujours eu en toi cette envie de provoquer, de dénoncer, de réveiller les consciences?
Oui, mais je pense que c'est pour réveiller la mienne aussi, avant tout. Hein. C'est parce que oui, c'est clair. Moi, j'ai toujours été attiré, oui, par les gens qui ont les juxtaboutistes. C'est-à-dire les gens qui ont des vrais rêves, comme Don Quichotte.
D'accord. Ouais. Donc, t'as toujours cherché, toi, à ne pas être dans la norme. T'as toujours cultivé cette différence?
Non, j'ai pas cherché. Non, je cherche pas. En fait, je pense que j'essaye d'être fidèle à moi-même. Et c'est plutôt le regard des gens à l'extérieur, hein, qui pensent comme ça, qui vous mettent des étiquettes parce qu'ils ont besoin de se rassurer en vous mettant une étiquette, quoi. C'est comme quand on croise un étranger, quelqu'un qui a pas la même religion que nous. Ben, il faut vite qu'on l'étiquette parce que on a peur de lui parce qu'il nous ressemble pas. Et je pense qu'au contraire, on devrait apprendre à cultiver nos différences et à se rendre compte qu'en fait, c'est ça qui fait notre richesse au niveau de l'humanité et c'est ça qui pourra nous rassembler. C'est pas qu'on ait tous le même numéro tatoué sur la peau qui fera qu'un jour, on va s'en sortir. Moi, je crois pas en ça. Je crois que l'humanité et les peuples sont différents et c'est ça qui fait qu'on est encore ici sur la planète aujourd'hui. Et moi, quand j'étais à l'école, j'ai toujours été attiré par le petit copain de la classe qui était noir ou qui était beurre ou qui avait pas la même religion que moi, que quand on allait à l'église, parce qu'on nous obligeait à aller à l'église dans les écoles catholiques que mes parents m'ont fait fréquenter, on était obligé d'aller à la messe. Puis j'avais un ou deux copains comme ça qui étaient musulmans, qui pouvaient pas. Alors on le mettait à l'étude, on le mettait à l'écart. Et moi, j'allais toujours vers eux, j'allais discuter avec eux. Parce qu'ils mangeaient pas comme moi, ils avaient pas la même odeur sur eux, et moi ça m'a toujours attiré, ça, c'est à essayer de comprendre pourquoi ils sont apparemment différents, et puis quand on se met à parler avec eux, en fait on s'aperçoit très vite qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes espérances, qu'on soit musulman, français, noir, blanc, jaune. À un niveau de la population, on est tous les mêmes et on veut nous faire croire que c'est faux. Et il faut pas se laisser avoir.
Alors, tu écris les paroles de tes chansons, mais côté musique, tu te fais souvent accompagner, que ce soit par Gilbert Gandy ou Serge Folie.
Voilà, oui, ce sont deux camarades là, qui me suivent depuis très longtemps. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet album avec eux. Donc Serge Folie, oui, que j'ai rencontré au tout début, je faisais de la chanson. On m'a fait rencontrer Serge et c'est un immense musicien, un très très grand arrangeur, et qui me permet de créer des climats qui me correspondent parfaitement. C'est la force de quelqu'un comme Serge Folie ou Gilbert Gandil, un autre musicien, donc que peut-être les gens qui ont connu le groupe Pulsar, ça leur dira quelque chose. En fait, Gilbert Gandil, c'est le guitariste du groupe Pulsar dans les années 70, c'est un groupe de rock progressif. Et ces deux personnages, donc Serge et Gilbert, sont des gens qui sont très forts en composition et en arrangement parce que ils savent respecter l'univers de l'artiste pour lequel ils travaillent et avec qui ils travaillent. Alors que souvent, on croise des gens qui, si ce sont des rockers, ils vous transforment votre chanson en rock, ou si ce sont des gens qui aiment un autre style de musique. En tout cas, ils mettent leur marque. Et je trouve que c'est dommage. Pour moi, un musicien, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à l'artiste qui est en face de lui.
Alors, dans le cadre de ta semaine, la semaine de la poésie, pardon, on te retrouve avec Jean-Christophe Kibler au Théâtre des Asphodèles à Lyon les 6 et 7 mars 2009. Barra, poète chantant, c'est une belle reconnaissance de ton travail et de ton talent.
Bon, en tout cas, c'est un beau compliment que je prends humblement, parce que comme j'adore la poésie, De dire de moi poète chantant, ça me touche, quoi, mais encore une fois, je sais pas si c'est à moi de dire que je suis un poète. En tout cas, donc oui, je travaille sur ce tour de chant avec Jean-Christophe Kibler, qui est un pianiste aussi que je connais depuis une dizaine d'années, vu que j'avais travaillé avec lui sur un récital Léo Ferré, pour un festival d'Avignon, d'ailleurs aussi, également, en 98, je m'en souviens, c'était pour la Coupe du Monde, la fameuse Coupe du Monde 98. Donc c'est un très très grand pianiste accompagnateur, un vrai pianiste accompagnateur. Donc il m'accompagne à la fois au piano et à l'accordéon, parce qu'il est également accordéoniste, qui nous permet de faire certains morceaux du spectacle à l'accordéon. Et il y aura même une primeur exceptionnelle, c'est que moi je ne suis pas musicien à jouer sur scène, mais là je vais me lancer avec une guitare, parce que vous ne le savez pas, les auditeurs non plus, je viens d'être papa. Et j'ai une petite fille, donc depuis un mois, qui s'appelle Ladislava, et je lui écris une chanson, et je vais me lancer avec ma guitare. Voilà, ça va être une première.
Bon. Eh ben, merci Didier Laval, alias Barra, d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Ben, c'est avec plaisir, et je dois dire que ça me touche beaucoup qu'une radio comme la vôtre prête une oreille attentive à des gens comme moi. Je voudrais vraiment remercier, parce qu'en fait nous ne pouvons exister que si des radios comme la vôtre qui font leur travail, de temps en temps nous ouvrent leurs portes. Et encore une fois, ça me touche vraiment beaucoup.
Il n'y en a pas assez de ces radios.
C'est vrai.
Enfin, il y a beaucoup de ces radios, mais pas assez qui font leur travail, voilà. Voilà. Et rappelons que ton premier album, le 40e Rugissant, donc est sorti le 15 novembre 2008. On peut se le procurer où, cet album?
Alors, comme je n'ai pas de distributeur pour l'instant, il est vendu à la sortie des concerts.
D'accord.
Et après, on peut, via mon site, on peut le commander.
www.myspace.com/Didier Barra, tout attaché. Didier Barra. Hein.
Voilà.
Voilà. Et pas Didier Laval?
Non.
Hein, non. Et le plus important pour nous, tu seras donc, on le disait, en concert au Théâtre des Asphodèles à Lyon les vendredis 6 et samedi 7 mars 2009.
Voilà. À 20h30. Et avec, pour ouvrir à chaque fois les deux soirées, en artiste invité, Fabienne Ostrapiades.
Bien. Eh bien, Barra, bonne chance pour la suite de tes aventures, bon concert et puis à bientôt sur Tropic FM.
Eh bien, à très bientôt. Et merci encore et bon appétit à tous les auditeurs.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.